Kiosque Magazine.
Bon vendredi matin, ici Miguel Doucet. Vous êtes à Kiosque Magazine sous le thème de la culture et des loisirs. Aujourd'hui, le 12 du 12, oui, alors vendredi 12. Et qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, des articles surtout en culture, mais aussi sur le thème de Noël, puisque Noël approche. Alors, on va parler de marché de Noël à Longueuil, de revues corrigées ou de revues du temps des fêtes, de luminothérapie, de cinéma du temps des fêtes, de crèches d'ici et d'ailleurs, et de théâtre. Et on va débuter tout de suite après cette petite pause avec un texte qui nous parle d'un chanteur, Olivier Charles. Dans le journal 24 heures d'aujourd'hui du 12 décembre, Olivier Charles, un talent à découvrir, un texte de Marie-Hélène Chartrand. Après deux mini-albums et une première chanson, Don't Let Me Go, classée parmi les 26 meilleurs titres du palmarès anglophone de la disque, l'auteur-compositeur-interprète Olivier Charles travaille à la création d'un premier long jeu. Celui-ci sera en concert aux côtés de Gabriella ce dimanche au Vert Bouteille. Olivier Charles explique avoir cherché son identité musicale avec ses deux premiers mini-disques. « Mon créneau, c'est le folk, l'acoustique, et en même temps, je veux garder une tendance pop plus moderne », fait-il remarquer. Comme influence musicale, celui-ci cite Mumford & Sons, Passager, Les Beatles, Eric Clapton, Ed Sheeran et Christina Perry. « Mon premier EP, c'était mes premières compositions qui n'étaient pas liées à l'école », explique le jeune homme de 24 ans. Ce dernier a fait une technique de 3 ans en composition au cégep Marie-Victorin, où il a appris à créer toutes sortes de musiques, que ce soit le jazz, le hip-hop ou encore le blues. Sa passion pour la musique, Olivier Charles, la tient de son père, Charles, qui est d'ailleurs aux commandes de sa carrière. « Ma sœur s'appelle Lisa Marie, comme la fille d'Elvis. Mon frère s'appelle Charles-Étienne, en référence à mon père, et moi je suis le petit dernier, Olivier. » Il n'y a pas trop d'histoire en arrière de ça et j'ai décidé de m'en inventer une et de m'appeler Olivier Charles, un peu pour remercier mon père, explique-t-il. Musicien autodidacte au piano et à la guitare, ce dernier considère le chant comme son principal instrument et a même déjà pris des cours. Il a d'ailleurs tenté sa chance aux auditions de Star Academy il y a très longtemps. « C'était probablement la pire audition que j'ai faite de ma vie », se souvient-il. « Avec le recul, comme je suis auteur-compositeur-interprète anglophone, je fais mieux de tracer mon chemin par moi-même au lieu de me créer un créneau francophone », ajoute l'artiste. Bien qu'Olivier, de son vrai nom, soit francophone, l'inspiration de ses mots lui vient en anglais. Pour la suite des choses, l'artiste prévoit lancer son premier album en 2015 et ne cache pas de ses grandes ambitions pour l'avenir. Déjà cet hiver, la chanson « Don't Let Me Go » sortira au Canada anglais et une nouvelle au Québec. Alors, Olivier Charles est en spectacle le 14 décembre à 20h au Vert Bouteille.
Come on, it was me, myself and I, walking down the street. Your company, I realized how well we fit. He was he and I was she. It was hand in a glove. It was the greatest love. And how we came to wed was the moment when he said, he said, M-I-N-N, won't you rock with me? He said, until the end, where you I wanna be. He said, you rock with me. I said, oh yes, baby, I give myself gladly. It was one of them days, you know, when your life's a video. See, everything is extra sharp, and what you see, you can't really know. Well, that's when I saw him, that's when I saw walking him in through the outdoor. He wore a raspberry hat and wasn't warm, he'd wear no more. He made me stop and turn, and he made my cheeks burn. I had to see where he went. I felt my gut say, this is man. Then he started to dance, and good Lord, he was fine. I said, is this my chance? I want to make him mine. He stepped back, forth, left, right, and then I saw the light.
said, L-I-N-N, won't you rock with me? I said, until the end, with you I wanna be. L-I-N-N, won't you rock with me? I said, yes, baby, I give myself gladly.
De la scène hip-hop suédoise, c'était Lynn et Freddy avec la pièce L-I-N-N. Eh bien, parlant de musique, qui ne rêve pas de recevoir des albums pour la période de Noël et surtout le jour de Noël? Eh bien, la liste de Noël revient pour une cinquième année, c'est dans Le Devoir du 3 décembre, un texte de Philippe Papineau. L'étiquette Poulet Neige offre gratuitement une sélection de 90 albums en tout genre à recevoir le matin de Noël. Vous aviez demandé le dernier disque de Monogrenade pour Noël, mais vous avez reçu celui de Marc Dupré. Pour une cinquième année, la liste de Noël de l'étiquette Poulet Neige permettra aux mélomanes de ne pas être déçus le 25 décembre au matin, en vous offrant gratuitement les albums que vous pouvez choisir parmi les 90 propositions offertes. La liste de Noël est presque devenue une tradition chez les curieux amateurs de musique. Sur une plateforme simple et jolie, vous naviguez parmi les titres sélectionnés et si vous aimez ce que vous entendez, vous l'ajoutez à votre liste. Au matin de Noël, vous recevrez gratuitement par courriel les albums choisis. La sélection officielle de 2014 compte une grande majorité de groupes québécois. Il faut un mélange de groupes un peu plus connus et de moins connus, explique Pierre Alexandre, qui mène de bout de bras cette initiative avec sa collègue Barbara Fink-Bexasfino. Il y a des trucs qui sont plus gros, qui ne sont pas nécessairement notre genre, mais qui vont attirer des gens vers la liste et ensuite ils vont pouvoir découvrir autre chose. Des hameçons quoi? Une fois le Monogrenade dans votre liste, donc pourquoi ne pas ajouter le dernier millimétrique, le Blue Jeans Blue, voir les derniers efforts des Deluxe de Meb, de Lila Roche ou de Passwords? Lancée lundi, la liste a déjà attiré plus de 10 000 visiteurs, dont 3 000 ont déjà fait leur liste pour l'édition 2013. 10 000 personnes ont reçu des cadeaux musicaux gratuits le 25 décembre. Pierre-Alexandre met tout de même en garde les nouveaux venus. Rien ne sert de demander, il faut cliquer à point. Si tu en choisis 60, ben après tu vas te sentir mal parce que c'est sûr que tu vas pas tout écouter ça. T'as bien beau être un gros mélomane, t'auras pas le temps d'écouter 60 albums, ça va juste te perdre dans ton iTunes. Mais moi, ce que je suggère, c'est d'en choisir une dizaine. Quelques étiquettes de disques ont joué le jeu encore cette année, dont Bandsound, Indica et Vega. D'autres n'ont tout simplement pas répondu au courriel de Poulet Neige. La plupart des musiciens de la liste de Noël sont sur de petits labels, voire indépendants. Je pense que les artistes trouvent leur compte là-dedans, c'est eux l'essence de l'affaire. C'est pas Poulet Neige qui cherche des fans. La personne qui est moins au courant de tout, qui est en dehors de Montréal et du petit monde de la musique, y voit la liste de Noël comme une occasion de se rattraper, de rester au courant de ce qui s'est passé dans la dernière année. Et également, les internautes ont l'option de faire une contribution volontaire au moment de leur choix. Alors, l'étiquette Poulet Neige pour faire votre sélection pour le temps des fêtes. La semaine passée, on a débuté une sélection de films à voir ou à revoir pour la période des fêtes. Alors, c'est dans Le Voir, un texte de Philippe Couture du 4 décembre, Noël 2014, 15 films à voir ou à revoir. Alors, je poursuis avec 5 autres titres sur cette série de 15. La Vénus à la fourrure. Emmanuel Seigny trouve l'un des grands rôles de sa carrière auprès de son réalisateur de mari, Roman Polanski, et d'un partenaire de calibre, Mathieu Amalric, dans La Vénus à la fourrure, un huis clos qui synthétise l'univers polanskien et tient son spectateur en haleine. Adapté d'une pièce de David Ives, ce film s'appuie sur des dialogues pour le moins costauds. Saigné y joue l'actrice prête à tout pour obtenir un rôle dans la pièce que prépare un metteur en scène prétentieux, jusqu'à ce qu'il y ait inversion des rôles et des rapports de force. Travestissement, intimité, personnages se révélant monstrueux et pulsionnels sous des dehors civilisés. Il y a là des motifs parcourant toute l'œuvre de Polanski. Tom à la ferme. Avec ce film tiré d'une pièce de Michel-Marc Bouchard, Xavier Dolan a atterri là où on ne l'attendait pas, créant un thriller parfaitement haletant. Notre critique parue en mars en parlait comme d'un film tirant brillamment profit de la photographie soignée d'André Turpin et de la trame sonore diablement efficace de Gabriel Yared, où Dolan s'amuse habilement avec les codes du thriller et du film d'épouvante afin de mettre en relief les travers d'une famille dysfonctionnelle frappée d'ostracisme par la communauté. Le film manœuvre par ailleurs subtilement les confins de la sensualité et de la violence. Nymphomaniac, volume 1 et volume 2. Ce long métrage sensuel et par moments explicite a fait énormément jaser depuis Cannes, où les cinéphiles ont découvert des scènes sexuelles pour le moins graphiques et sa violence crue. Or, Lars von Trier offre ici un film intimiste malgré ses dehors spectaculaires. Une œuvre reposant sur une longue discussion philosophique entre une femme nymphomane et un homme asexué. Un long parcours érotique fait de sexe triste et de culpabilité, rapprochant le film d'une certaine littérature érotique dans laquelle la passion du sexe est vue comme une pathologie. C'est ce parti pris qui donne au film un potentiel inouï de réflexion sur notre rapport au sexe, qu'il soit sain ou maladif. Grand Budapest Hotel. Le génie de Wes Anderson se confirme à nouveau dans l'aventure historique prenant place au Grand Budapest Hotel, tandis qu'un assistant de maître d'hôtel, interprété par Tony Revolori, se rappelle les moments de gloire de cet hôtel et de son tenancier, M. Gustave, un gentleman et aventurier original. La République fictive de Zubrowska vivra les remous réels causés par les grandes guerres successives, tandis que la mort guette nos personnages principaux. Filmé et monté avec le même sens aigu et de la symétrie des couleurs et du rythme auquel on s'est habitué de la part du réalisateur de Life Aquatic ou Moonrise Kingdom, ce petit bijou cinématographique présente les performances décapantes d'Adrien Brody, William Dafoe, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Léa Seydoux et Jason Schwartzman, entre autres. Un moment magique. Et ma dernière suggestion, donc, c'est Les Garçons et Guillaume à table. Ce qui fut d'abord une pièce de théâtre à succès est devenu un film irrésistible aux personnages délirants. Largement autobiographique, ce film de Guillaume Gallienne raconte ses années d'adolescence à se réfugier dans un monde imaginaire inspiré autant de l'univers d'Almodovar que de celui d'Ivory. Traversé par une intense relation mère-fils, ce long métrage est porté par une grande intelligence comique et des dialogues vivants. Incarnant son propre rôle et celui de sa mère, Guillaume Gallienne s'y montre polyvalent, raffiné, proche du théâtre. Toujours dans le merveilleux monde du temps des fêtes, Noël approche et c'est parfois le moment de sortir sa crèche pour la mettre sous le sapin. Et c'est à Québec qu'il y a une exposition que l'on parle dans Le Soleil, dans un texte de Dan Drolet du 9 décembre. Crèche d'ici et d'ailleurs, se draper de culture. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il donne une bonne idée de la culture de celui qui le porte. Draperie de soie, broderie de fil doré, tricot délicat. Des couleurs criardes côtoyant des beiges et des blancs immaculés. Des personnages habillés jusqu'aux oreilles ou encore presque nus. La 31e exposition crèche d'ici et d'ailleurs a été construite autour du thème « Les plus beaux atours ». Les quelques 80 œuvres présentées ont donc été sélectionnées parce qu'elles se démarquaient d'un point de vue vestimentaire, explique la designer scénographique de l'exposition des trois dernières années, Nathalie Racicot. Elles ont été choisies parmi un bassin de plus de 2000 crèches que possèdent musées et collectionneurs privés. Elles viennent d'une trentaine de pays. Chaque artiste ou artisan va représenter son pays à travers la crèche, explique Mme Racicot. Que l'on soit croyant ou pas, pratiquant ou non, Nathalie Racicot estime qu'il faut voir avant tout la crèche comme une œuvre d'art. Ce sont des objets hyper intéressants qui nous permettent d'abord en contact avec une culture, avec des matériaux et avec une fabrication, des métiers d'art. C'est tout ça qu'on retrouve à travers une crèche. Elles sont uniques, faites par un artisan. On va retrouver de la céramique, du textile, du bois, de la sculpture, illustre Madame Racicot. Les enfants sont souvent émerveillés, a-t-elle pu constater. Le volet éducatif reste très présent. Les enfants auront l'occasion d'en apprendre plus sur les habitudes vestimentaires de certains personnages de crèche venant de l'étranger et par ricochet sur leur culture, note-t-elle. D'où vient ce personnage avec sa grosse couverture en laine de lama? Où les femmes portent-elles traditionnellement un poléra, cette chemise jupe longue et très ample? Réponse de la Bolivie et du Panama. La pièce maîtresse cette année est une œuvre imposante d'environ 7 pieds de longueur sur 6 pieds de hauteur. Elle a été fabriquée par le frère Jasmin Houle et inspirée de la tradition napolitaine. Au 17e siècle, les notables et les bourgeois engageaient artistes et couturières pour concevoir des crèches qui pouvaient prendre une pièce entière de la maison, explique le religieux dans un texte accompagnant l'exposition. Le frère Houle a d'ailleurs fait venir les personnages et les tissus de nappes pour créer son œuvre. Il a aussi façonné les bâtiments. Si vous désirez voir cette exposition sur les crèches de Noël d'ici et d'ailleurs, eh bien c'est à la bibliothèque Gabriel Roy au 350 Saint-Joseph-Est dans l'arrondissement de Limoilou au centre-ville de Québec.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Thank you.
Nini Cherry, 7 Seconds. On parle de théâtre dans Le Devoir du 9 décembre, un texte de Christian Saint-Pierre, le théâtre, la loi du plus fort. Certains créateurs se donnent pour mission d'explorer les coins les plus sombres de l'âme humaine. Évoluant loin du politiquement correct, de la bienséance et de la bien-pensance, ils sont rarement célébrés, rarement portés au nu, rarement invités dans les maisons dites « respectables ». En assistant à la première version de Tranche Q en 2013 à la Zone Oma, il m'est clairement apparu que Jean-Philippe Barry-Guerrard faisait partie de ces artistes de théâtre déterminés à accomplir cette tâche délicate, aussi exigeante que nécessaire. Il faut commencer par décrire le dispositif sur lequel l'ensemble de la représentation s'appuie. Dans ce théâtre de la confrontation, les 14 interprètes assis dans le public se lèvent subitement pour adresser leur diatribe à un spectateur se trouvant en face de l'autre côté, pour ainsi dire, dans l'autre camp. Souvent aussi, c'est Anne Trudel, la comédienne qui tient le rôle de bouc émissaire, qui encaisse les violentes attaques de ses collègues. Le procédé d'une redoutable efficacité empêche le spectateur de s'évader, de se soustraire aux propos, en somme de fuir l'introspection. Les personnages de Tranche Q sont des monstres, des créatures immondes, fielleuses, qui ne semblent vivre que pour persécuter leurs prochains. Mais sont-ils si différents de nous? N'avons-nous pas, nous aussi, un jour ou l'autre, joui de notre supériorité dans la chaîne alimentaire? N'avons-nous pas, ce ne serait-ce qu'un centième de seconde, espéré que la théorie de l'évolution favoriserait l'extinction des plus faibles, ceux qui nous ralentissent fâcheusement dans notre course vers la perfection? C'est avec effroi que chacun sera contraint de se reconnaître quelque part dans ce terrible portrait de société. S'il prolonge ici ce qu'il a commencé à accomplir dans Baiserie et Ménagerie, Barry-Guerrard va aussi beaucoup plus loin dans le ton et la manière sa maîtrise impressionne. Alors, des sujets abordés de la façon la plus contemporaine qui soit, c'est-à-dire avec une cruauté inouïe. Depuis le laboratoire, l'auteur et metteur en scène a fait ses devoirs. Le spectacle actuel est bien entendu plus soigné, mais il est aussi moins redondant, plus équilibré sur le fond et la forme. Il faut dire que l'inquiétant personnage incarné par Matthew Enfield relie très efficacement les pièces du puzzle jusqu'au magnifique tableau final où apparaissent autant de raisons de garder espoir que de s'apitoyer sur son sort. À vous de choisir votre camp. Alors, Tranche Q, un texte et une mise en scène de Jean-Philippe Barry-Guerrard, une production du théâtre en petite coupure, et c'est présenté à Espace Libre jusqu'au 20 décembre. Pour toujours pour le temps des fêtes et sous un ton plus léger, dans le Journal de Montréal du samedi 6 décembre, Louise Bourbonnais nous parle « Noël plus grand que nature » avec la pièce « Le grand sapin ». Fidèle à cette tradition qui s'installe d'année en année, le théâtre du 450 propose un conte comédie musicale qui, cette année, sera campé dans un petit village du Grand Nord québécois de 63 âmes qui rêve de se transformer en grande cité pour Noël. Après nous avoir présenté son spectacle « Tempête des fêtes » l'année dernière, l'auteur et metteur en scène Vincent Pascal revient cette année sur la scène longueloise pour nous présenter « Le Grand Sapin », une production québécoise qui se donne également comme mandat de faire une place aux jeunes comédiens diplômés. Des artistes qui ont néanmoins tous collaboré au moins une fois dans l'une des productions du théâtre du 450. Son défi cette saison, c'est de créer 25 personnages qui défileront sur scène avec seulement 6 comédiens. Certains vont interpréter jusqu'à 5 ou 6 personnes, explique le metteur en scène. Certes, on les verra chanter et danser où chacun transformera le décor au gré des situations. Bien que le spectacle compte une grande part de féerie, la pièce pose des questions très actuelles puisqu'il sera également question d'enjeux économiques. On verra la mairesse faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son village, annonce Vincent Pascal. Le curé du village voudra préparer ses festivités de Noël, mais son église est vide. Pour pallier le problème, certains habitants souhaiteraient transformer ce lieu de paix en une ville industrielle. Les gens n'ont pas de travail, l'économie va mal, raconte l'auteur. On cherche des solutions, mais les enjeux environnementaux ne sont jamais bien loin dans le questionnement. Il sera question d'une pipeline, précise-t-il. On pourrait même vouloir faire de ce petit village un endroit semblable à Dubaï avec des proportions démesurées. Outre les enjeux économiques, les personnages mythiques associés à Noël seront aussi présents. Il y aura une certaine forme de magie et on demeure dans un univers ludique avec notamment des lutins et des rois mages, promet Vincent Pascal. Après tout, nous sommes dans un spectacle de Noël. Pour ajouter à cette magie, on compte sur la musique du temps des fêtes qui occupe une place importante dans cette pièce. Néanmoins, l'histoire demeure réaliste et garde ses distances avec l'habituel conte de fées. Le spectacle compte une part d'ambiance et d'obscurité. Tous s'en sentiront pas indemnes, mais l'aspect donnant est celui de l'espoir, le centre et la lumière et l'envie d'être ensemble, fait savoir le metteur en scène. On cherche également à comprendre quelles sont nos valeurs aujourd'hui par rapport à Noël. Surtout, on tient à s'amuser et amuser le public sans avoir à faire une leçon, conclut l'auteur. Alors, Le Grand Sapin, alors auteur et metteur en scène Vincent Pascal, est présenté jusqu'au 28 décembre au Théâtre du 450 à l'ancienne chapelle Saint-Antoine à Longueuil. Alors, dans quelques instants, on prend une petite pause. On est rendu à la moitié de l'émission et je vous reviens après cette pause pour parler marché de Noël, de revues corrigées, et de revues du temps des fêtes et, bien sûr, d'expositions à voir. Vous écoutez Kiosque Magazine. Kiosque Magazine du vendredi sous le thème de la culture et des loisirs et je m'appelle Miguel Doucet et on poursuit. Et c'est le temps des fêtes, c'est le temps des revues, c'est le temps des bilans. Se faire un bilan et on est des experts en humour et en bilan, hein? On a toujours notre bye-bye à la télé, mais pourquoi ne pas aller voir des spectacles? Alors, sur scène et dans la presse, Jean Siag nous fait des propositions dans un article du 7 décembre, notre revue des revues de l'année. La revue de fin d'année conçue à la manière du bye-bye est une formule qui plaît. Malgré l'absence remarquée des apartistes cette année, les spectacles d'humour continuent d'attirer les foules. La presse vous propose des spectacles déclinés en sketch et en chansons qui vous replongeront dans l'actualité 2014. Tout d'abord, dès ce soir, Salut 2014, cabaret politique et bouffonnerie de Philippe Lemieux. Alors, sketch, monologue, chanson, ce 8e cabaret politique sans complaisance sera mis en scène pour la 3e fois par le comédien Richard Fréchette. Les auteurs du cabaret s'inspireront notamment de l'élection de Philippe Couillard, au changement de garde du PQ et au groupe armé État islamique. On verra sur scène Pénélope Jolicoeur, Philippe Lemieux, Guillaume Regaudy, Marie-Christine Pilote, Dominique Saint-Laurent et Véronique Pascal. C'est au Petit Medley dès ce soir jusqu'au 30 décembre. Alors, il y a aussi 2014 dans le tordeur. Martin Proulx et Jocelyn Lebeau, auteurs de capsules humoristiques diffusées quotidiennement sur le site web de Télé-Québec, passent à la scène. Les deux acteurs de l'émission Jeudi 16h, produite par Julie Snyder et Marie-France Bazot, passeront plusieurs acteurs de l'actualité dans le tordeur, parmi eux Anne-Marie Dussault, Philippe Couillard, Gaétan Barrette et Stephen Hopper. La mise en scène a été confiée à Brigitte Poupard. C'est au Théâtre de la Ville à Longueuil les 19 et 20 décembre et à la salle André-Mathieu à Laval le 6 janvier. Et à Québec, on vous en a parlé la semaine passée, le Beubail 2014. Alors, le comédien et metteur en scène du collectif Temps, Lucien Ratio, nous propose une première revue de l'année sur scène à Québec. Il s'est entouré des comédiens Philippe Durocher, Edwidge Morin, Nicolas-Franck Vachon, Joël Bourdon et Monica Pilon pour concevoir ce spectacle d'humour qui s'inscrit dans la tradition des revues de fin d'année. Leur matière première, le maire La Bombe, bien sûr, la course à la direction du PQ et les nombreuses émissions de cuisine. C'est au Théâtre de l'Abordé à Québec jusqu'au 20 décembre. Thank you. Une autre suggestion, et celle-ci, et ça fait 10 ans que ça fonctionne très bien, c'est au Théâtre du Rideau Vert, et c'est 2014, revu et corrigé. On en parle dans Le Voir du 2 décembre, dans un texte de Joseph L. Fassi. Alors, le talent remarquable d'un humour officiel. Le bilan de l'année du Rideau Vert est, comme toujours, remarquable dans la qualité de production et quelque peu prévisible dans son ton éditorial. Un succès inévitable. C'était une maison pactée pour la première de revue et corrigée du Théâtre du Rideau Vert. On y trouvait de nombreuses élites locales telles que Marc Cassivi, Lisa Frula, Nathalie Petrovski, Janine Suteau, Jean-François Lisée et notre mère de Nicodère. Si une critique théâtrale ne doit pas s'intéresser traditionnellement aux invités, mais plutôt à la qualité seule de la production, une œuvre ne peut pas nécessairement être prise hors de son contexte. Ce public spécifique-là, il faut le considérer comme public cible d'une œuvre ressemblant au loufoque vaudeville des bye-bye, revue et corrigée à parler aux figures d'autorité présentes dans la salle, mais sans trop mordre quand même. Alors, le quatrième mur est d'ailleurs tombé tandis que Martin Héroux était déguisé en Denis Coderre dans le cadre d'une chanson sur les travaux routiers de la métropole. Le maire théâtral s'est d'ailleurs accoquiné avec le maire réel pour prendre un double selfie dans l'hilarité collective. Le Théâtre du Rideau Vert est chargé d'histoires qui se présentent un peu comme la chronologie officielle d'une petite famille humble et celle d'une certaine royauté simultanément. On entre ici dans une certaine tradition où les manonnettes libérales sont critiquées dans leur fond idéologique, tandis que les travers péquistes sont généralement présentés en surface, avec les bines sur l'épaule qu'on réserve à la famille proche. Si on ne se réfère longtemps et explicitement à l'austérité libérale, on aborde avec une certaine tiédeur et timidité la question de la charte péquiste en présentant le compte-rendu d'un voyage à Montréal effectué par les Pinot-Caron. En parlant de famille péquiste, l'un des moments forts, voire sublimes de la soirée est l'imitation de Pauline Marois par Suzanne Champagne. Une interprétation remarquable, tout en tendresse et en familiarité, qui présente avec le sourire qu'on connaît de la grande dame toute la violence et l'hypocrisie entourant sa défaite et son retrait spontané d'une vie politique qu'elle a marquée et influencée avec sa force unique. C'est un discours d'adieu plus probant que celui auquel on a eu droit après la triste soirée d'élection. Et si les blagues sont formelles, parfois prévisibles, souvent présentées au premier degré, efficaces et nombreuses les performances, elles tiennent du prodige. Le charisme de Suzanne Champagne n'égale que sa présence nourrissante, capable de soutenir un comédien lors d'une performance comme de dominer complètement la scène sur commande. Benoît Paquette, imitant Pierre Lapointe, Jean Héroldi et Sugar Sammy, entre autres, est efficace et incisif. Marc Saint-Martin est clairement un favori, interprétant avec une précision remarquable des figures mythiques comme Ginette Renault ou Micheline Langteau dans Unité 9. Julie Ringuette, la petite nouvelle du groupe, en Céline Dion ou Marie-Mé, révèle un charisme spectaculaire qui aurait sa place au Centre Bell. Talent de comédien également indéniable pour France Parent et Martin Héroux. Et si les comédiens sont remarquables individuellement dans leur portrait de nos vedettes, ils forment également un groupe cohérent et bien huilé, capable d'enchaîner chorégraphies, chants, changements de costumes et autres complexités scéniques avec une grâce qui se traduirait à peu près de façon identique dans un montage serré pour la télévision. Une direction efficace, rythmée et impeccable qu'on doit à la mise en scène d'Alain Zouvi. Si on est parfois curieux de savoir comment l'histoire officielle s'écrit, la présentation de Revue corrigée en est parfaitement l'exemple. Il s'agit d'un discours critique mais officiel, incisif mais de bonne guerre, drôle mais relativement prévisible, impeccable et techniquement et rassembleur. C'est au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 4 janvier. We'll be right back. Voyez como va de Santana. Vous avez besoin de lumière, vous êtes déprimé. C'est le temps d'aller faire un peu de luminothérapie. Alors, c'est par un texte tiré de la presse le 10 décembre, un texte de Éric Clément, Luminothérapie, des prismes et des jeux. Une cinquième édition très ludique de luminothérapie a débuté dans le quartier des spectacles. Cette année, les passants pourront en effet jouer avec les prismes de Raw Design sur la place des festivals et les ballons-poires de Loose Studio près de l'édicule de la station de métro Saint-Laurent. Luminothérapie revient cet hiver avec deux œuvres interactives qui viendront animer le quartier des spectacles en soirée jusqu'au 1er février. Prismatica de la firme torontoise Raw Design et Fascinoscope de l'entreprise montréalaise Loose Studio. Prismatica est une installation que Raw Design a réalisée en collaboration avec Atomic 3, Jean-François Piché et 10 au carré sur la place des festivals. Elle est composée de 50 prismes éclairés qui pivotent sur eux-mêmes quand on les fait tourner avec la main. Grâce aux panneaux qui constituent les prismes, des couleurs se réfléchissent sur le sol quand ils y tournent. Les prismes sont pourvus d'un dispositif sonore qui émet un faible son de clochette quand ils sont actionnés. Prismatica a été conçu pour créer un immense kaléidoscope interactif, dit Pierre-Alexandre Le Hellet, architecte chez Raw Design. Cela donne diverses atmosphères de couleurs et de réflexions chatoyantes sous la lumière du jour ou sous les faisceaux des éclairages nocturnes. Plus lumineuse que musicale, l'installation devrait créer une sorte de féerie quand la neige aura recouvert la place des festivals, ce qui est le cas présentement, et que le vent fera tourner les prismes. La foire Fascinoscope, plus complexe, la création Fascinoscope de la firme montréalaise Loose Studio, consiste en une vidéo-projection sur 8 façades et un jeu pour jeunes de 7 à 107 ans, à l'angle des boulevards de Maisonneuve et Saint-Laurent. Le thème de Fascinoscope est la fête foraine du siècle dernier. Chaque façade illuminée est un kiosque animé en musique avec les thèmes sonores de XX, la petite boîte à musique. Des animations sont ainsi projetées sur la façade du pavillon président Kennedy de l'UQAM, qui devient un grand chapiteau où des acrobates évoluent dans un monde d'illusions. La façade ouest du théâtre Maisonneuve se transforme en une lanterne magique où des images défilent comme dans un grand carrousel. Place de la paix, des machines volantes amorcent un tour du monde. Le fronton mural du centre de design de l'UQAM est paré d'animations d'un cabaret de style Moulin Rouge. Au Cégep du Vieux-Montréal, un hypnotiseur tente un envoûtement avec des effets psychédéliques étonnants. Le clocher de l'UQAM montre un magicien qui fait des tours et la façade de la Grande Bibliothèque devient le cabinet Bizarro. C'est sur la place du métro Saint-Laurent que l'œuvre connaîtra certainement le plus de succès populaire. L'équipe de Mathieu Larrivé y a créé une arcade en plein air avec 4 jeux interactifs mettant aux prises 4 joueurs grâce à un dispositif de ballon-poire comme on en retrouve dans les cours de récréation. Les visiteurs peuvent jouer à poulet en cavale, les figurantes machines volantes, le maître de l'illusion et le charmeur de serpent. Chaque jeu dure 60 secondes. Chaque joueur accumule des points en activant des ballons-poires munis de capteurs, notamment en visant des poulets ou en faisant monter des montgolfières. Une des 4 estrades a été créée pour permettre à des enfants d'y accéder plus facilement. Alors, si vous voulez voir Prismatica de Raw Design, c'est en continu 7 jours sur 7 et Fascinoscope de Loose Studio, c'est dès 16h30 tous les jours jusqu'au 1er février dans le quartier des spectacles et c'est gratuit! Êtes-vous un peu tanné de pelleter? Peut-être avez-vous le goût de sortir, prendre l'air en fin de semaine? Mais il y a du nouveau dans les stations de ski et Stéphanie Morin nous en parle dans la presse du 2 décembre. Des zones d'apprentissage mieux adaptées, des nouveaux sous-bois en quantité, des pistes flambant neuves ou des versants entiers consacrés au ski hors-piste, les stations de ski du Québec proposent leur lot de nouveautés pour la saison qui vient. C'est un survol, donc du nouveau dans les stations. Les amateurs de glisse en sous-bois seront servis cette saison car plusieurs stations ont décidé d'ajouter de nouvelles pistes boisées à leur domaine skiable. C'est le cas notamment du Massif du Sud où l'on a dégagé un long couloir boisé le plus long de la station. Selon Alain Contant, directeur général, ce sous-bois d'environ 1400 mètres de longueur est évolutif. La première partie conviendra aux débutants, la partie du milieu est conçue pour les skieurs intermédiaires et la section du bas est faite pour les experts. Au Mont-Saint-Sauveur, un nouveau sous-bois permettra d'initier les skieurs. Contrairement aux autres sous-bois de la station considérés de niveau intermédiaire ou expert, l'avenue des Champions a été conçue pour les skieurs de 12 ans et moins, explique Patricia Bergeron, responsable des communications pour Mont-Saint-Sauveur International. Autre nouveau sous-bois à découvrir cet hiver, deux couloirs boisés, niveau de difficulté double losange à Halls Head, deux nouveaux sous-bois à Valinouette, à la piste Attache-Tatuc, pour débutants au Mont Olympia, 8 acres de terrain dégagé pour la descente en sous-bois à Tremblant et 3 pistes boisées pour les enfants dans la forêt des lutins du ski Garceau. Un nombre grandissant de skieurs lassés des larges pistes damnées se tourne vers le hors-piste. Bonne nouvelle, les stations sont de plus en plus nombreuses à se doter d'un secteur destiné à accueillir ces amateurs de ski en pleine nature. Le Mont Grandfond, à la Malbaie, fait désormais partie du lot, avec l'ouverture d'un tout nouveau versant pour la pratique du hors-piste. D'une superficie de 8 hectares, le versant nord-est compte 4 forêts ouvertes, dont le dénivelé varie entre 200 et 800 mètres. À Lens-Saint-Jean, la station de ski Mont-Édouard ouvrira aussi, dès que le couvert neigeux sera suffisant, un nouveau secteur pour le ski hors-station, accessible uniquement en peau d'ascension, le secteur sera destiné aux skieurs intermédiaires et experts. Des guides offriront de plus des sorties d'initiation. Au Mont-Garceau, à Saint-Donat, un nouveau couloir d'ascension permettra aux skieurs hors-piste ainsi qu'aux fondeurs et racteurs de grimper jusqu'au sommet. La descente pourra se faire par l'une des pistes ordinaires de la station. Les skieurs en herbe n'ont pas été oubliés. Plusieurs stations ont rénové leurs aires d'apprentissage ou leurs pistes pour enfants. À la station Mont-Tremblant, c'est un tout nouveau secteur destiné aux 3 à 12 ans qui voit le jour. Située sur le versant sud, la zone d'aventure Tam Tam permettra aux petits skieurs de s'amuser en ski ou en planche sur une enfilade d'obstacles, de virages et de modules. C'est une façon pour eux de développer leur équilibre par le jeu. La zone comptera aussi un parc où les enfants pourront jouer sans leur planche aux pieds, explique Annick Marseille, conseillère en relations publiques pour Station Mont-Tremblant. Au Mont Orford, la zone d'apprentissage a été élargie, tandis qu'au Mont Original, le petit parc à neige compte de nouveaux modules et est désormais éclairé.
Com ele. crois que Rémi a voulu faire un hommage à tous ces snowbirds qui sont partis profiter du soleil dans le sud. C'était la lambada. Mais nous, on est encore ici, hein, et c'est peut-être un moment aussi pour aller dans un marché de Noël. Alors, la presse du 10 décembre, Nathalie Morissette, nous parle du marché de Noël, donc une tradition à Longueuil, à Noël, au marché, tradition longueuloise. Au cours des prochaines semaines, notre journaliste va visiter donc des marchés de Noël et pourquoi pas en profiter pour faire quelques emplettes. Alors, il y a de la musique traditionnelle qui joue à travers les haut-parleurs placés un peu partout sur le site. Il y a le feu extérieur qui permet aux visiteurs de se réchauffer un peu avant de poursuivre leur tournée à travers la cinquantaine de maisonnettes. Il y a bien sûr le Père Noël confortablement assis dans son gros fauteuil rouge, alors que les petits se mettent sagement en ligne en attendant d'aller s'asseoir sur ses genoux. Et finalement, il y a Timé, la vraie vedette du marché de Noël et des traditions de Longueuil. Le personnage n'a rien à voir avec la comédie La Petite Vie. Elle est en fait une caricature de l'image qu'on se fait de nos ancêtres avec ses mocassins, son épais manteau de fourrure et bien sûr sa ceinture fléchée rouge. Il fait partie du décor du marché depuis les débuts, il y a 8 ans. Alors, sa bonne humeur semble contribuer au succès du marché. Il parle aux passants, fait des blagues avec les exposants et fait de l'animation. Aussi, au marché, il y a chorale, heure du conte, sous les flocons en compagnie des lutins, spectacle pour enfants avec M. Ding Dong, vedette de l'émission 1, 2, 3 géants, et présentation de courts-métrages de l'ONF destinés à toute la famille à l'église Saint-Marc, située tout juste à côté des maisonnettes des artisans. Dans leur petite cabane décorée de guirlandes lumineuses, les artisans proposent d'ailleurs une variété de produits qui permettront sans doute à plusieurs de faire leurs emplettes des temps des fêtes ou encore de dénicher une gâterie sucrée à déposer au centre de la table le soir de Noël. Alors, tant qu'à y être dans l'ambiance des fêtes, il est même possible d'acheter sur place son sapin de Noël. Voilà un petit village facile d'accès, notamment en raison de sa proximité avec Montréal, qui permet de commencer les festivités bien avant le 25 décembre. Alors, le marché de Noël et des traditions situé dans le parc Saint-Marc, en plein cœur du Vieux-Longueuil, se tient les samedis de 10h à 20h et les dimanches de 10h à 18h jusqu'au 21 décembre. C'est le moment des brèves et je propose ici des brèves directement inscrites dans le temps des fêtes. Alors tout d'abord, il y a Casse-Noisette, un incontournable de nos classiques, si on peut dire, et c'est à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Il y a aussi, toujours à la Place des Arts, décembre, le Noël de Québecissime. Alors, c'est présenté donc pendant cette période au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Il y a un autre spectacle, si vous voulez voir ou revivre un Noël d'antan, Noël 1933, un spectacle musical qui remonte le temps et qui vous suit un peu entre le théâtre et le chant. C'est présenté à la salle Fred Barry du Théâtre Denise Pelletier le 12 et 13 décembre, donc aujourd'hui et demain à 7h30, donc 19h30. Il y a le concert de Noël d'Andy Kim qui est très populaire à Toronto et qui vient ici à Montréal pour la première fois et c'est au profit de la Fondation pour l'enfance Starlight. Alors, vous pourrez voir entre autres sur scène Sam Roberts, Ron Sexsmith, Patrick Watson et Amy Millins. C'est présenté donc demain soir à 20h au Théâtre Corona. Et si vous aimez la musique gospel, la formation gospel, vous pouvez vous rendre demain à 20h et dimanche à 16h, donc 4h, à l'église Saint-James de Montréal pour entendre des classiques du répertoire de Noël et quelques compositions originales. Il y a aussi les concerts de Noël des petits violons. Alors, les petits violons et l'ensemble Jean Cousineau introduisent donc leur concert de Noël. Et vous pourrez entendre donc des concertos de Joseph Suk, Jörg Gottfried Händel et Wolfgang Amadeus Mozart. L'entrée est libre à tous et c'est ce dimanche à 16h à l'église Saint-Vincent. Aussi, si vous êtes plus cinéma, il y a le remake, donc la reprise du film Annie, un remake noir cette fois-ci, au goût du jour, un peu plus hip-hop, ça sort en salle dès aujourd'hui.
Eh bien, c'est ainsi que se conclut Kiosque Magazine. Je remercie Rémi à la régie. Je remercie Charles Roy qui m'a aidé dans ce choix d'article d'aujourd'hui. Et on vous revient bientôt avec un autre Kiosque Magazine sous le thème de la culture et des loisirs. Restez en ondes sur Canal M. If you don't love me now, sniffing the tears, sniffing the tears, like a man on a Sunday drive, I swear that I'll come round. It's my love with their eyes. C'était Miguel Doucet pour Kiosque Magazine. On se retrouve à la semaine prochaine.